Troisième partie. Les mers. Chapitre 16. Les quatre royaumes. On désignait ainsi les régions de la province d'Anacréon qui se séparèrent du premier empire dans les toutes premières années de l'ère de la Fondation pour former des royaumes indépendants et éphémères. Le plus grand et le plus puissant d'entre eux était Anacréon, dont la superficie, assurément l'un des aspects les plus intéressants de l'histoire des quatre royaumes, est certainement la création de cette étrange société qui s'imposa durant l'administration de Salvor Hardin. Encyclopédia Galactica. Une délégation. Le fait que son arrivée ne fût pas une surprise pour Salvor Hardin ne la lui rendait pas plus agréable pour autant. Bien au contraire, du fait même qu'il s'y attendit, il l'appréhendait plus encore. Johann Lee était partisan des mesures extrêmes. Il affirma : « Hardin, je ne vois pas pourquoi nous perdrions encore du temps. Ils ne peuvent rien faire avant les prochaines élections, tout au moins sur le plan légal. Et cela nous donne un an. Refusez de les recevoir. » Lee, lui répondit Hardin avec une moue de désapprobation. Vous ne changerez jamais. Voilà 40 ans que je vous connais, et vous n'êtes toujours pas fichu d'attaquer par derrière, c'est pourtant l'enfance de l'art. Ce n'est pas mon genre. Moi, je me bats à la loyale, grommela Lee. Oui, je sais bien. C'est sans doute pour cela que vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il se tut un instant et prit un cigare. Nous en avons fait du chemin, Lee, depuis le jour de notre coup d'État contre les encyclopédistes. Je me fais vieux. J'ai 62 ans maintenant, vous savez. Ne trouvez-vous pas que ces 30 années ont passé bien vite? Moi, je ne me sens pas vieux, grommela Lee. Et pourtant, j'ai 66 ans. Oui, mais je n'ai pas votre appareil digestif.
Hardin tirait nonchalamment sur son cigare. Il avait depuis longtemps cessé de rêver au doux tabac végan de sa jeunesse. Tout cela remontait à une époque révolue où Terminus entretenait encore des relations commerciales avec toutes les planètes de l'Empire galactique. Révolue, comme le bon vieux temps l'est toujours par définition. Et l'Empire galactique prenait lentement mais sûrement le même chemin. Hardin se demandait qui pouvait bien être le nouvel empereur. Mais y avait-il seulement un nouvel empereur? Existait-il même encore un empire? Par l'espace, depuis 30 ans que la frange galactique avait vu ses communications définitivement coupées, l'univers de Terminus se résumait à une planète et à ses 4 royaumes limitrophes. Grandeur et décadence des royaumes. C'était jadis des préfectures. Et toutes appartenaient à une seule et même province, elle-même subdivision d'un secteur appartenant à un cadran de l'immense empire galactique. À présent que l'empire avait perdu toute autorité sur ses marches, ces petits groupes de planètes perdues aux confins de la galaxie étaient devenus des royaumes commandés par des rois et des princes d'opérettes, occupés à se mener des guerres inutiles et dérisoires, tandis que la vie envers et contre tout se poursuivait, misérable, au beau milieu des ruines. La chute d'une civilisation, la perte de l'énergie atomique, l'oubli des sciences dégénérant peu à peu en mythe. C'est alors que la Fondation était intervenue, cette même Fondation que Harry Seldon avait établie sur Terminus et qui n'avait pas d'autre but que cette intervention. Lee était près de la fenêtre et sa voix vint interrompre le cours des méditations de Hardin.
Il a fallu qu'ils viennent dans un Vehisol dernier modèle. Les jeunes et les voitures.
D'un pas incertain, il se dirigea vers la porte, puis se tourna en direction de Hardin. Ce dernier se mit à sourire et lui fit signe de continuer.
C'est moi qui ai donné des instructions pour qu'on les conduise jusqu'ici.
Ici? Pourquoi? Vous leur donnez trop d'importance.
Pourquoi s'imposer tout le cérémonial d'une audience municipale officielle? Je suis trop vieux pour ces singeries. Et d'ailleurs, la flatterie est une arme précieuse quand on a affaire à des jeunes.
surtout quand cela ne vous engage à rien,
ajouta-t-il avec un clin d'œil complice. Allons, Lee. Asseyez-vous et restez avec moi pour que j'aie votre soutien moral.
J'en aurai besoin avec ce petit Cermak.
Justement, insista Lee d'une voix sourde, ce Cermak est un individu dangereux. Il a des partisans, Hardin, ne le sous-estimez pas.
Ai-je jamais sous-estimé personne?
Alors faites-le arrêter, vous trouverez bien un prétexte après coup.
Hardin dédaigna le conseil. Les voici, Lee. En réponse à un signal qui venait de s'allumer, il pressa une pédale disposée sous son bureau et la porte coulissa. Les quatre membres de la délégation pénétrèrent dans la pièce et Hardin leur désigna avec amabilité de confortables fauteuils placés en demi-cercle devant le bureau. Ils s'inclinèrent et attendirent que le maire prît l'initiative de leur adresser la parole. Hardin ouvrit le couvercle étrangement sculpté du coffret à cigares qui avait jadis appartenu à George Farah, à l'époque de l'ancien conseil d'administration, au temps lointain et révolu des encyclopédistes. Il s'agissait d'une authentique production impériale en provenance de Santani, mais qui ne contenait plus maintenant que des cigares indigènes. L'un après l'autre, gravement, les quatre envoyés acceptèrent solennellement un cigare et l'allumèrent suivant le rite consacré. Sef Cermak était le deuxième en partant de la droite, le benjamin de ce groupe de jeunes gens. Le plus intéressant aussi, avec sa moustache jaune fournie, soigneusement taillée, et ses yeux très enfoncés d'une couleur incertaine. Hardin comprit tout de suite que les trois autres étaient des sous-fifres. Cela se lisait sur leur visage. Ce fut sur Cermak qu'il concentra toute son attention. Cermak, qui dès son premier mandat au conseil d'administration ne s'était pas privé de chambouler plus qu'à son tour l'indolente institution. Ce fut donc à Cermak qu'il s'adressa en ces termes.
Je tenais particulièrement à vous voir, monsieur le conseiller, depuis votre remarquable discours du mois dernier. Les critiques auxquelles vous vous êtes livré contre la politique étrangère du gouvernement étaient des plus argumentées.
Ce compliment m'honore, dit Cermak, les yeux brillants.
Que mes arguments aient été ou non bien avancés, ils étaient assurément fondés.
C'est possible. Vous avez le droit d'avoir votre opinion.
Toutefois, vous êtes bien jeune.
C'est un reproche, répliqua sèchement Cermak, qu'on peut faire à la plupart des gens à une période de leur vie. Vous-même, vous aviez 2 ans de moins que moi quand vous avez été élu maire de la ville.
Hardin réprima un sourire.
Il n'a pas froid aux yeux, ce gamin.
Je suppose, poursuivit-il, que vous venez me voir à propos de cette même politique étrangère qui semblait vous déplaire si fort lors de la dernière séance du Conseil. Parlez-vous aussi au nom de vos 3 collègues ou dois-je entendre chacun de vous séparément ?
Les jeunes gens échangèrent discrètement de brefs coups d'œil.
Je parle au nom du peuple de Terminus,
dit Cermak d'un ton grave,
car le peuple de Terminus ne saurait s'estimer représenté par cette institution fantoche qu'on appelle le Conseil.
Très bien. Je vous écoute, continuez.
C'est très simple, monsieur le maire. Nous sommes mécontents.
Quand vous dites « nous », vous voulez bien dire « le peuple ».
Cermak lui retourna un regard hostile, flairant un piège.
« Je crois », reprit-il glacial, que mes opinions reflètent celles de la majorité du corps électoral de Terminus. Cela vous suffit-il ?
À vrai dire, une pareille déclaration se passe difficilement de preuve. Mais peu importe, continuez.
Ainsi vous êtes mécontent ?
Oui. Mécontent de la politique, qui, depuis 30 ans, prive Terminus de tout moyen de défense contre une agression extérieure qui ne peut manquer de se produire.
Je comprends. Alors, Continuez, continuez. Votre impatience me flatte. Alors, nous avons formé un nouveau parti politique. Un parti qui s'occupera des besoins immédiats de Terminus, sans se soucier d'une mystique de la prétendue destinée d'un futur empire. Nous allons vous virer de la mairie, vous et votre bande de pacifistes, et dans pas longtemps.
À moins. Vous savez qu'il y a toujours un « à moins ».
Vous n'aurez pas 36 solutions, à moins que vous ne donniez sur le champ votre démission. Je ne vous demande pas de modifier votre politique. Ma confiance en vous ne va pas jusque-là. Vos promesses ne valent rien. Nous n'accepterons qu'une démission inconditionnelle.
Je vois.
Hardin croisa les jambes et se mit à se balancer sur deux pieds de son fauteuil.
C'est votre ultimatum.
Je suis ravi que vous m'en ayez informé. Mais voyez-vous, je ne crois pas que je vais en tenir compte.
Ne prenez pas cela pour un avertissement, monsieur le maire. C'est une déclaration de principe qui va être suivie de mesures immédiates. Le nouveau parti est déjà constitué et il commencera dès demain son activité officielle. Nous n'avons ni le temps ni même l'envie d'aboutir avec vous à un compromis et à franchement parler. C'est seulement en hommage au service que vous avez rendu à la ville que nous avons voulu vous proposer cette sortie élégante. Je ne pensais pas que vous l'accepteriez, mais désormais j'ai ma conscience pour moi. Les prochaines élections vous feront comprendre de gré ou de force que votre démission s'impose. »
Il se leva et fit signe à ses compagnons de l'imiter.
Hardin leva le bras.
« Pas si vite. »
« Asseyez-vous. »
Sef Sermac se rassit avec un empressement un tout petit peu trop visible.
Hardin jubilait sans rien en laisser paraître. En dépit de ce qu'il venait de dire, le jeune homme attendait une contre-proposition.
Dans quel sens souhaitez-vous que nous modifions notre politique étrangère? Souhaitez-vous que nous attaquions les quatre royaumes à la fois tout de suite?
Je n'irai pas jusque-là, monsieur le maire. Nous proposons simplement de cesser toute temporisation.
Jusqu'à ce jour, vous avez pratiqué une politique d'aide scientifique au royaume. Vous leur avez donné l'énergie atomique, vous les avez aidés à rééquiper leur territoire en centrale. Vous leur avez fourni des cliniques, des laboratoires de chimie, des usines.
Et alors? Qu'avez-vous à redire à tout cela?
Vous l'avez fait pour les empêcher de nous attaquer. Et vous vous êtes laissé duper dans un formidable chantage, si bien que Terminus a été saigné à blanc et se trouve désormais à la merci de ces barbares.
Comment cela?
Parce que vous leur avez donné la puissance des armes. Parce que vous avez armé les vaisseaux de leur flotte. Ils sont infiniment plus forts qu'ils ne l'étaient voilà trois décennies. Leurs exigences vont croissant. Et grâce aux moyens dont ils disposent aujourd'hui, ils vont pouvoir bientôt les satisfaire toutes d'un coup en annexant par la force Terminus. N'est-ce pas comme cela que se terminent d'ordinaire les histoires de chantage?
Et comment vous proposez-vous de remédier à cette situation?
En cessant de leur jeter de nouvelles armes en pâture pendant que vous le pouvez encore. En consacrant toutes vos énergies à renforcer la position de Terminus et en attaquant le premier.
Hardin fixait avec une fascination quasi morbide la petite moustache blonde de Sermac.
Le jeune homme devait se sentir sûr de lui, sinon il n'aurait pas tant parlé. Ces propos devaient effectivement refléter le sentiment d'une large part de la population, d'une très large part. La voix du maire, pourtant, ne trahit pas la légère inquiétude qui l'habitait. Il répondit au contraire sur un ton presque négligent.
« Avez-vous fini ? » demanda-t-il.
« Pour l'instant. »
« Bon. » Alors, voyez-vous cette déclaration encadrée au mur derrière moi? Voulez-vous la lire?
La violence, lut Sermac, un rictus agacé au coin des lèvres. Et le dernier refuge de l'incompétence. C'est une doctrine de vieillard, monsieur le maire.
Je l'ai appliquée quand j'étais jeune homme, monsieur le conseiller. Et avec succès. Vous étiez occupé à venir au monde,
quand cela s'est passé. Mais peut-être en avez-vous entendu parler en classe.